Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Histoire du Soir avec Olivier Burette. Et nous sommes déjà en ce 29 septembre 2016, eh bien, dans la 9e émission ensemble. Ce soir, nous allons plus particulièrement nous intéresser à un phénomène du Moyen-Âge qui est bien connu, qui est celui de la chevalerie, celui des croisades, bien sûr, qui vont nous emmener au cœur du XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, et bien sûr, un des aspects sans doute les plus emblématiques, si je puis dire, qui constitue en fait la création des ordres de chevalerie, hein, et un ordre un peu particulier qui, encore aujourd'hui, intrigue profondément les contemporains, qui est l'ordre du Temple, les Templiers. Donc, évidemment, on va, en tant qu'historien, faire un petit parcours, une petite visite de ce qu'est cet ordre. Alors, si, en effet, les croisades, hein, commencent finalement à la fin du XIe siècle, ben, il faut savoir que l'ordre des Templiers est créé dans le sillage des croisades. Il n'est pas créé immédiatement, hein, on aura l'occasion de le redétailler tout à l'heure. Hein. Il est créé après la conquête de Jérusalem, par exemple. Hein. Et évidemment, il s'agit d'un ordre à la fois religieux, hein, et militaire, hein, puisque les deux grands ordres, hein, disons, de cette époque, hein, sont l'ordre du Temple, donc pour la protection, hein, pour le dire, protection des pèlerins, hein, et les hospitaliers pour tout ce qui est du domaine, évidemment, de l'assistance, hein, médicale, etc. Alors, je propose une émission en trois temps, hein, ce soir. Première partie, ben, on va se plonger un peu dans cet ordre des Templiers, voir ce qu'il est, hein, bien sûr. Et puis, qui sont ces Templiers, comment sont-ils organisés, à la fois en Europe et évidemment en Orient, hein, dans la fameuse Terre Sainte, hein, dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. On va évidemment se plonger dans leur fin, hein, ce fameux événement du début du XIVe siècle, leur arrestation, hein, sur ordre de Philippe le Bel, hein, la fameuse et tragique année 1307, hein, ensuite leur exécution, leur procès, leur condamnation en 1314. Hein, bien sûr, j'invite, hein, celles et ceux qui sont parisiens à se rapprocher du Pont Neuf à Paris, hein, et notamment de l'île où se trouvent encore de façon commémorative, hein, les deux symboles, hein, du fameux bûcher, hein, du grand maître Jacques de Molay. Hein, voilà. Et puis, on fera une petite chronologie commentée, bien sûr, de nos Templiers. Ensuite, nous reviendrons sur les croisades elles-mêmes. Je crois que c'est très utile de savoir un peu dans quelle mouvance, dans quelle époque on se situe, hein, qui ont préludé, comment dire, à la création de l'ordre du Temple. Et puis, ben, on terminera avec les fameux mystères, bien sûr, comment ne pas les évoquer, hein, ne pas parler des Templiers sans parler des mystères qui les entourent, hein, notamment autour de deux sites, hein, pour celles et ceux qui fréquentent la page Facebook que j'anime sur Internet. J'ai mis en ligne, bien sûr, quelques photos de deux sites tout à fait intéressants, qui sont d'une part le château de Chinon, Chinon qui, dans les Pays de la Loire, a servi de dernier, comment dire, de dernière prison, en fait, aux Templiers. Et puis, le fameux mystère de Gisors. Gisors, ce vieux donjon mystérieux qui se trouve en Normandie et qui abriterait, aurait abrité, voire abriterait toujours une chapelle dans laquelle se trouverait le fameux trésor des Templiers. Parce que nous y voilà, quand on parle des Templiers, eh bien sûr, nous pensons à la question du trésor. Et de leur mystérieux trésor, on n'a jamais retrouvé rien, etc. Où est-ce que cela peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que peut être le trésor? Et puis tous les mystères qui entouraient les Templiers, étaient-ils des gardiens du Graal? Avaient-ils un savoir ou un super savoir que nous ne connaissons pas? Existent-ils toujours? Beaucoup de choses dans cette dimension historique, bien sûr. Alors, on va commencer par tout simplement, disons, les origines. Les origines, première chose, les Templiers sont avant tout apparus au début du XIIe siècle. C'est en 1118 que cet ordre qui est qualifié de militaire et religieux chrétien est fondé à Jérusalem. Son but est de protéger les pèlerins qui participent au pèlerinage, bien sûr, sur le tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre. Et bien sûr, on leur donne, le roi de Jérusalem leur attribue des quartiers qui sont proches de l'ancien temple de Salomon. Alors voilà pourquoi. Tout simplement, on les appelle les chevaliers du temple, l'ordre du temple. C'est une localisation géographique dans la ville de Jérusalem. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qui s'est passé? On y reviendra tout à l'heure. Bah, tout simplement, à la fin du XIe siècle, et depuis déjà pas mal de temps, la Terre Sainte, c'est-à-dire les sites de à la fois Jérusalem, Bethléem, tous les sites, dirions-nous, de l'Évangile, qui étaient jusqu'alors contrôlés par le puissant Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, qui est aujourd'hui à peu près la surface de la Turquie actuelle, eh bien, sont. Comment dire, tout simplement envahi par donc les peuples voisins, musulmans et voisins, qui déferlent sur ce Proche-Orient et qui vont en effet donc tout simplement s'emparer de la Terre Sainte, de Jérusalem. Byzance n'est plus capable, si vous voulez, d'assurer l'ordre et d'assurer surtout la circulation, la libre circulation des pèlerins. Car après le 5e siècle de notre ère, se développe tout comment dire, une piété liée au pèlerinage sur les lieux saints. Et donc, en effet, l'Empire de Byzance appelle au secours l'Occident, appelle des mercenaires, ni plus ni moins, pour tout simplement eh bien, permettre la libre circulation des pèlerins. Mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer, car en Occident, le pape, on en reviendra tout à l'heure, en place à l'époque, eh bien, tout simplement, voilà une idée intéressante de faire reprendre le monde chrétien occidental, de reprendre pied dans la région et de damer le pion à Byzance, ce qui est toujours, comme vous le savez, depuis le schisme entre orthodoxes et catholiques, évidemment une division. Et donc, tout simplement, eh bien, la première croisade va être envoyée là-bas, et on va se passer des services de Byzance et créer ainsi les fameux États latins, qui vont vivre à peu près 2 siècles dans la région, le royaume de Jérusalem, d'une part, bien sûr, le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche, et le comté d'Édesse. Ce sont des noms aujourd'hui qui sonnent de façon assez dramatique, parce que tout simplement, ce sont des régions aujourd'hui déchirées par cette guerre civile qui a lieu en Syrie. Et puis on n'oublie pas, bien sûr, comme base arrière, et c'est important puisque ce sera la dernière base arrière des croisés, 2 siècles plus tard, c'est cette île qui se trouve au large des côtes libanaises, au sud de la Turquie, qui s'appelle Chypre. Chypre qui possédera un certain nombre de forteresses, notamment des chevaliers du Temple, et qui donc servira évidemment de relais stratégique. Évidemment, quand on voit où se trouve cette île, on comprend très bien l'utilité qu'elle a pu avoir sur le plan géostratégique pour les opérations militaires dans la région. Alors, voilà un peu le cadre dans lequel se situe notre histoire. On est en pleine ferveur religieuse au moment où se crée cet ordre. Alors, les croisades, je viens d'évoquer, ça commence pour la première en 1095, avec le fameux appel à la croisade. Cette première croisade va se terminer le 15. Juillet 1099, avec tout simplement la prise de Jérusalem, la prise de Jérusalem, donc, et la libération tout simplement de Jérusalem par les fameux croisés, la fameuse première croisade. Une prise qui ne se passera pas nécessairement de façon aussi épique qu'on a pu le dire, puisque toute la population de la ville, qui n'est pas considérée comme chrétienne, sera massacrée. Tout cela est raconté de façon abondante par les chroniqueurs de l'époque. Il y aura en tout 8 croisades. 8 croisades. Qui vont se terminer finalement au début du XIVe siècle. 8 croisades, et je serais tenté de dire 9, mais en fait la 9e de ces croisades est celle qui a été dirigée contre les Albigeois, c'est-à-dire contre les Cathares. Croisade qui a été qui est en fait une quasi guerre civile, pour mieux dire, entre croyants. On y reviendra plus tard si nous en avons le temps. Alors, les Templiers sont considérés comme étant une organisation extrêmement riche, c'est sa réputation. Ils sont organisés dans un système très habile de commanderie, ils possèdent une flotte, et notamment en France, leur puissance sera telle que un temps, ils seront les détenteurs, tout simplement, du trésor royal. Alors, tout cela va, et on le verra, n'avoir qu'un temps, puisque avec la fin des croisades, et donc évidemment ça coïncide avec le début du XIVe siècle, les Templiers vont perdre progressivement leur pouvoir. Ils seront considérés, parce qu'ils auront développé un système bancaire extrêmement habile, sont les inventeurs des dépôts bancaires. Ils ont un système, un maillage de représentation bancaire à travers toute l'Europe et tout le Proche-Orient extrêmement complexe. C'est-à-dire que si, imaginons ce cas, c'est les origines même de ce système, vous partez en pèlerinage, vous confiez vos économies, imaginons à Rouen, et puis ensuite vous partez escorté donc pour votre pèlerinage donc jusque Jérusalem, et vous arrivez à Jérusalem, là vous allez retrouver le même officine bancaire où on va vous restituer la même somme. Vous voyez, le système tel qu'il se mettait en place à cette époque-là. Donc tout cela, évidemment, n'arrange rien. Contre-pouvoir, contre l'affermissement, on le verra au début du XIVe siècle, d'un pouvoir royal centralisé par Philippe le Bel, roi donc de la dynastie des Valois, et qui, évidemment, voudra mettre un terme à ce contre-pouvoir que seront les Templiers en les faisant tous arrêter, et Titon en voulant mettre la main sur le fameux trésor, ce fameux trésor qui donc serait dans le château de Gisors. Alors je cite, rien que pour le plaisir, avant de continuer, la fameuse insertion de la malédiction, hein, parce qu'il y a bien sûr aussi dans l'existence du mystère des Templiers la question d'une malédiction, c'est-à-dire que quand le grand maître Jacques de Molay est brûlé vif en mars 1314 hein, à Paris, eh bien il aurait dit en fait la chose suivante: pape Clément, ça c'est le pape de l'époque, roi Philippe, donc c'est Philippe le Bel, avant un an, je vous cite, à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, tous maudits, jusqu'à la 13e génération de vos races. Alors évidemment, réelle ou supposée, cette insertion nous intrigue, car en effet, peu de temps après, le pape Clément et Philippe le Bel, en effet, vont disparaître dans des circonstances dramatiques. En tout cas, c'est ce qui fait partie de la littérature, hein, notamment un certain nombre de livres, hein, dont le célèbre livre « Les rois maudits hein, », que je vous encourage à lire, de Maurice Druon, un magnifique ouvrage, qui a donné lieu aussi à plusieurs adaptations télévisuelles, notamment dans les années 60, et puis plus récemment, c'est évidemment une littérature tout à fait intéressante qu'il faut voir. Alors, la fondation de l'ordre, hein, on va détailler un petit peu, fondation de l'ordre, eh bien, remonte, comme je l'ai dit, à 1118, hein, et on trouve parmi ses fondateurs hein, deux personnages qui sont Hugues de Pins, hein, je cite, c'est-à-dire P-A-Y-N-S, et Godefroy de Saint-Omer, hein, qui seront deux des fameux neuf fondateurs de l'ordre du Temple. Ce sont des gens qui, pour Hugues de Pins, notamment, sont à l'est de Paris. Hein, et c'est eux hein, qui vont mettre en place cet ordre qui apparaît hein, finalement, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, après la prise de Jérusalem d'une part, et deuxièmement, qui est fondée au sein même hein, du royaume de Jérusalem, hein, par le roi, notamment le roi Baudouin II. Hein. Alors en 1127, une délégation se rend en Europe hein, pour tout simplement recruter hein, des nouveaux chevaliers, puisqu'il s'agit vraiment d'un ordre qui se met en place à cette époque-là, pour tout simplement aussi établir une règle, parce que je rappelle que c'est un ordre qui est religieux hein, et militaire. Hein, les chevaliers du Temple jurent abstinence, hein, comme des religieux, mais en même temps, ce sont des militaires, bien sûr. Cette règle est établie en 1129 hein, par tout simplement Bernard, Saint Bernard, hein, qui est un des personnages très importants hein, de l'histoire de la chrétienté au Moyen-Âge. Hein, il va écrire un certain nombre d'autres règles pour d'autres ordres, hein, Saint Bernard, un personnage très important qui donc va être à l'origine de la fameuse règle des Templiers. Alors on raconte aussi, et je le précise, puisqu'on est dans une émission qui tente aussi à parler un peu des mystères, hein, et qui aurait eu une seconde règle, mystérieuse et notamment qui aurait concerné les rites hein, et les rituels des Templiers. Alors cette règle ou cette seconde règle n'a jamais été vraiment établie. Hein, surtout, on verra ça tout à l'heure, en ce qui concerne le mystère des Templiers, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de ce mystère hein, est née notamment hein, des, si vous voulez, tortures hein, épouvantables auxquelles on va soumettre hein, les chevaliers de l'ordre du Temple au XIVe siècle hein, pour tout simplement leur faire leur fameux procès en sorcellerie. Et ça, Bien sûr, c'est quand même évidemment une source hein, des fameux mystères. Vous savez qu'on leur a reproché d'adorer une idole qui se serait appelée Baphomet, avec une tête d'animal, etc. Des rites sataniques, des mœurs sexuelles condamnées profondément à l'époque, comme évidemment des mœurs de type homosexuel, etc. Et alors évidemment, tout cela génère du mystère. Mais nous, nous continuons de progresser dans les repères historiques. En 1139, hein, ça va assez vite, hein, surtout pour le Moyen Âge, hein, 20 ans après leur fondation, hein, un petit peu plus, eh bien, les Templiers obtiennent la protection du pape Innocent II. Hein, et en 1145, ils sont dispensés de l'hommage vassalique, hein, dispensés de la dîme, c'est-à-dire que l'ordre, tout simplement, va s'émanciper tout simplement du monde médiéval, hein, monde extrêmement hiérarchisé, hein, avec l'hommage vassalique, un monde pyramidal qui remonte jusqu'au roi, hein, avec tout un tas de personnages, hein, qui sont suzerains les uns des autres, hein, structure extrêmement complexe que cette structure médiévale, en partie héritière d'ailleurs, ne l'oublions pas, du maillage structurel du bas empire romain, hein, qui sera repris notamment par l'empire carolingien. Hein, là, ça nous amène au 9e siècle, nous sommes déjà bien après. Hein. Et vraiment, on peut dire que c'est un ordre extrêmement protégé à partir du moment où il commence, hein, son lancement. La vie des Templiers. Alors, la vie des Templiers, il faut savoir que le recrutement se fait dans deux catégories de la population, la noblesse d'une part, pour les chevaliers, hein, et puis les hommes libres, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas dépendants des serfs, hein, qui sont dépendants par exemple des seigneurs, non, il y a également des hommes libres dans ce monde médiéval, et eux peuvent devenir sergents. Alors, l'engagement dans l'ordre est à vie. Il faut avoir 18 ans, être célibataire, ne pas avoir de dettes, respecter donc la règle établie par Saint Bernard, hein, et ensuite plus tard la règle de Saint Benoît. Hein. Il porte un manteau blanc, hein, et une croix rouge. Cette croix rouge évoque, hein, tout simplement le sang du Christ. Alors, le chevalier, également les cheveux courts ou ras sont préconisés. Hein, je vous rappelle qu'on est en pleine période médiévale, hein, et que bien sûr, il y a là l'idée de représenter une exemplarité, hein, pour l'époque. Les chevaliers donc reçoivent trois chevaux, hein, un destrier pour le combat, un palefroid pour les déplacements, et un sommier pour le transport du matériel individuel. Le chevalier également reçoit une sorte de trousseau, hein, composé d'une cotte de mailles, de tout un équipement, en fait, donc évidemment militaire de l'époque, d'armes, bien sûr, aussi, hein, et des vêtements, évidemment, une literie, des soins de toilette. On a un équipement complet pour la vie, si on peut dire, hein, puisque, bien sûr, c'est un engagement, comme vous l'avez compris, qui est définitif. Et également, il y a des sanctions. Hein, c'est-à-dire que si on ne respecte pas, si je puis dire, les règles qui sont imposées, eh bien, il y a donc une série de sanctions qui sont appliquées. Hein, le Templier doit jeûner un vendredi s'il fait la moindre effraction ou défaillance. 2 jours de jeûne et de corvée. Hein, 3 jours de jeûne aussi, ça peut aller jusque-là. Un fautif peut également aller jusqu'à manger par terre. En cas de perte, en cas de perte de ses vêtements, de son équipement, hein, eh bien, c'est dans ces cas-là une rétrogradation où celui-ci est obligé de redevenir dans des fonctions de laboureur ou d'esclave. Hein. Et également dans des cas de sodomie, dit-on, ou comment dire, d'activité, comment dire, considérée comme déviante, là, il y a une exclusion et qui peut même être assortie de peines extrêmement graves, châtiment corporel, le fouet, hein, notamment, de façon diverse et variée. Alors, comment est organisé l'ordre? dans les deux parties, hein, les deux parties du monde où finalement il va se développer. On a bien compris qu'il y a une part importante de l'ordre qui est installée en Europe, hein, et puis une autre, hein, qui est évidemment la plus active, hein, en tout cas jusqu'au XIVe siècle, qui s'installe, hein, et qui va demeurer dans cette zone du Proche-Orient que l'on a évoquée, la fameuse Terre Sainte. Alors d'abord, il y a un grand maître, hein, celui-ci est élu à vie. Hein. Il siège à Jérusalem, hein, le grand maître, hein, on a évoqué tout à l'heure. Hein. Alors on l'appellera le maître au début, puis ensuite il y a une évolution du langage qui fera que ce sera le grand maître. Hein. Il comportera des noms de famille importants, Hugues de Pin, on l'a dit tout à l'heure, bien sûr Jacques de Molay aussi pour la fin de l'ordre, hein. Et puis également de grands noms de familles de l'époque, comme la famille des Lusignan par exemple, hein. Lusignan qui auront, et je l'évoquais tout à l'heure encore dans cette base arrière, cette forteresse qu'est l'île de Chypre, un château, hein, tout à fait impressionnant, si on en croit en tout cas les photos que l'on peut en voir. Hein. Alors, sous ce grand maître, il n'est pas seul, bien sûr, hein, il y a un sénéchal qui porte le drapeau, hein, un maréchal, donc dont les fonctions sont d'entretenir les armes, les chevaux, hein, un commandeur, hein, également de la terre et du royaume de Jérusalem, un trésorier, un commandeur de la flotte, un drapier en charge de la literie, un commandeur de la cité de Jérusalem, dont les fonctions sont de protéger le pèlerin, d'avoir une escouade de 10 chevaliers. Hein, et puis ensuite, nous avons des commandeurs dans les différentes maisons de l'ordre, hein, qui se trouvent dans toute la Terre Sainte, commandeur à Antioche, commandeur à Tripoli, commandeur de maison, également commandeur de chevalier. Hein, ça, c'est le degré le plus bas, hein, qui dirige un escadron, hein, de 10 chevaliers. Voilà pour la structure. Les Templiers, on le verra tout à l'heure en évoquant, bien sûr, la question de la terre, comment dire, des croisades, hein, les Templiers vont également avoir une structure, hein, en Occident. Et cette structure, bien sûr, est à peu près similaire à celle que je viens d'évoquer, toujours avec le grand maître, qui lui, bien sûr, un grand maître qui siège à la fois, hein, en tant que grand maître pour les provinces d'Orient et pour les provinces d'Occident, bien sûr. Ce grand maître en Occident, également, a deux visiteurs, hein, qui travaillent avec lui et qui se répartissent donc dans les 7 provinces, hein, les 7 provinces de l'ordre, hein, qui sont en Europe. Celles-ci sont la France, la Grande-Bretagne, le Poitou, également l'Aragon, le Portugal, les Pouilles, c'est-à-dire l'Apulie en Italie, et également en Hongrie. Hein, important de le retenir. Rien que pour la France, hein, nous avons un maillage de 700 commanderies. On en voit encore aujourd'hui, hein, j'ai mis tout à l'heure sur Facebook, hein, quelques photos de livres, notamment donc le fameux Les Templiers sont parmi nous de Gérard de Sède, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais aussi un guide très pratique qui est le guide en fait de la France templière et qui, pour celles et ceux que cela intéresse, permettra de découvrir des lieux tout à fait extraordinaires de ces anciennes commanderies qui parsèment toute la France et qui sont, il est vrai, surtout installées dans le sud. Donc, bien sûr, tout cela va vivre, fonctionner pendant toute la durée, hein, de cette épopée des croisades, hein, qui va nous mener jusqu'au début du XIVe siècle. Alors, bien sûr, cela se termine à un moment donné, hein, par la dissolution de l'ordre ou sa suspension, hein, qui a lieu en 1307, tout simplement pour des raisons, hein, qui sont, en tout cas officieusement, hein, de mettre un terme à un pouvoir, hein, qui donc était considéré comme un pouvoir dans l'État. Hein. Alors, bien sûr, on peut revenir, hein, sur les principaux événements, hein, avant d'aborder les croisades elles-mêmes, liées à l'ordre des Templiers dans leur histoire. Hein. Comment dire, ces épisodes, hein, sont les suivants. D'abord, bien sûr, le 15 juillet, hein, de 1099, la prise, hein, de Jérusalem, hein, je n'y reviens pas. Et puis ensuite, donc, ce sont différentes dates très importantes, hein, avec 1120, l'assemblée, hein, qui a lieu à Naplouse, hein, et qui suit donc la fondation de 1118, hein, la première grande assemblée de l'ordre, hein, avec Hugues de Pin. Hein. Ensuite, en 1129, c'est le concile de Troyes, hein, avec l'approbation, hein, de la règle des Templiers. En 1135, le Concile de Pise, hein, où le pape Innocent II présente à l'Assemblée le nouvel ordre et donne aux Templiers une liste de fêtes. Hein. En 136, c'est la mort du fondateur, Hugues de Pin. Hein. Et l'ordre donc continue, bien sûr, de se développer dans les années qui suivent. En 1147, il y a un chapitre général de l'ordre du Temple qui est à Paris. Hein. Et là, je m'arrête 5 minutes sur Paris. Puisque il reste vraiment deux lieux fort intéressants, pourrions-nous dire, au nord de la Loire. Hein. Alors à Paris, il ne reste plus rien, puisque le quartier du Temple, hein, tel qu'il est, s'appelle aujourd'hui le carreau du Temple, hein, qui est une salle d'exposition. Mais par contre, si on se promène dans ce quartier, qui est donc situé derrière la place de la République, hein, vers la rue de Picardie, tout ça, eh bien, on peut voir encore, hein, des soubassements de cette forteresse du Temple qui était installée là, qui a abrité le trésor des rois de France quand même, hein, pendant très longtemps, et qui a subsisté, hein, après la disparition de l'ordre au XIVe siècle. Hein, ça a subsisté. Puisque on en fera une prison ensuite, hein, et vous le savez, c'est là notamment que le roi Louis XVI sera enfermé, hein, dans la prison du Temple, hein, tout simplement, au moment de la Révolution française. Sera finalement détruite, hein, ce bastion des Templiers, cette espèce de donjon énorme sera rasé sous le Premier Empire. Hein, et aujourd'hui, il y a aujourd'hui un joli petit square, hein, vous pouvez voir, avec quelques panneaux historiques indiquant ce qu'il y avait là. C'est incontestablement intéressant quand même de s'y rendre. Autre lieu, et que j'ai visité aussi, j'ai mis quelques petites vidéos d'ailleurs sur Internet, à la fois sur Vimeo et sur Facebook, c'est alors là pour le coup la fameuse église des Templiers qui est à Londres. Bien sûr, qui est une église extrêmement intéressante, qui elle n'a pas du tout été détruite. Le quartier de l'ordre du Temple à Londres est totalement intact. Hein. Aujourd'hui, simplement, il est reconstruit, occupé par des bureaux, et notamment des bureaux d'avocats, hein, de puissantes, comment dire, sociétés d'avocats, mais de cabinets d'avocats, je veux dire. Mais en fait, là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que cette église templière, qui a cette particularité, vous le savez, des églises templières, c'est la fameuse rotonde, hein, c'est-à-dire qu'elles sont circulaires, un peu sur le modèle du Saint-Sépulcre, justement, comme en Orient, hein, et où se trouvent des gisants tout à fait fascinants de chevaliers templiers, extrêmement intéressants à voir, hein, parmi bien sûr toutes les commanderies qui jonchent l'Europe et notamment le sud de la France, tout cela est fort. Fort intéressant à voir. Alors, bien sûr, les croisades, hein, vont, comme je vous l'ai dit, être assez nombreuses. Il y en a quand même huit. Et une date extrêmement tragique hein, dans cette histoire, qui est le 4 juillet 1187, la fameuse bataille de Hattin, hein, où tous les Templiers sont capturés, exécutés par Saladin, hein, qui est un des grands conquérants de l'époque et qui va reprendre Jérusalem. C'est la première fois que Jérusalem sera reprise, hein, après 1099, hein, presque un siècle d'existence de ce royaume. Et bien, la bataille de Hattin, hein, c'est une énorme défaite templière. Il ne faut pas croire, hein, que cet ordre était invincible, loin de là, hein, énormément de drames vont joncher son histoire. En 1191, c'est la prise d'Acre par l'armée de la Troisième Croisade. Hein, on va revenir tout à l'heure sur les croisades. Et en 1291, hein, on approche du XIVe siècle, c'est la chute d'Acre, hein, et la fin dite des États latins d'Orient. Hein. Le 12 août 1291, les Templiers évacuent leur dernière forteresse, hein, Château Pellerin, hein, pour se réfugier, donc en ce 12 août 1291, dans l'île de Chypre, hein, qu'ils évacueront ensuite, hein, mais dont je vous ai expliqué qu'il s'agissait d'une base arrière, hein, dans le cadre des croisades. Alors, évidemment, nous arrivons au début du XIVe siècle, et là les choses vont mal tourner, puisque bien sûr, eh bien, les Templiers n'ont plus vraiment d'objectif, hein, puisque leur raison d'être était de protéger les pèlerins. Bah, il n'y a plus de pèlerins, puisque bah, tout simplement les provinces, donc la Terre Sainte, va tomber hein, entre les mains des infidèles, hein, définitivement, dirions-nous, hein, et enfin, ce qu'on appelle les infidèles à l'époque. Et donc, ça se termine en Europe hein, par la fameuse arrestation du 13 octobre. Alors, vous savez que le fameux symbole du vendredi 13, hein, bah, le fameux symbole du vendredi 13, c'est ça, hein, c'est évidemment le 13 octobre 1307, hein, ce jour où, sur un décret, par une opération secrète, hein, tous les Templiers sont arrêtés sans coup férir par les lieutenants du royaume, hein, mis dans des prisons, torturés. Hein. Et c'est là, hein, probablement, que va naître une bonne partie des légendes qui circulent sur l'ordre du Temple, tout simplement parce que bah, la plupart, hein, pour tout simplement se débarrasser de ces tortures épouvantables, et je vous passe les détails de ce que pouvaient être les instruments de torture au Moyen Âge, eh bien, bien sûr, il s'agit d'avouer le plus vite possible et d'avouer tout et n'importe quoi. Alors, il va y avoir différents interrogatoires, grande date de cette purge anti-templière, hein, qui est le 12 mai 1310, avec un bûcher de 54 templiers qui sont donc brûlés à Paris. Le 18 mars 1314, eh bien, c'est le dernier grand maître, Jacques de Molay, hein, qui est incinéré, enfin incinéré, brûlé vif, oui, bien sûr, avec son principal lieutenant, Geoffroy de Charnay. Hein, c'est terminé, bien sûr, de l'aventure de l'ordre du Temple. Enfin, terminé, en tout cas, de manière officielle, car on en parlera tout à l'heure à la fin de cette émission, de nombreuses survivances hein, et réapparitions ou tentatives de recréation de l'ordre du Temple vont apparaître au fur et à mesure de l'histoire, bien sûr. Alors, un petit coup d'œil quand même sur les croisades. Un petit coup d'œil sur les croisades et une chronologie, parce que je pense que c'est quand même le meilleur moyen de suivre tout ce que j'ai pu aborder ici. Alors, tout commence par une ville située au cœur de la France, Clermont-Ferrand, hein, où le 27 novembre 1095, le pape Urbain II hein, eh bien, va prôner la première croisade. Alors, on revient sur cette histoire, bien sûr, vous le savez, la Terre Sainte n'est plus sous contrôle de Byzance, de l'Empire romain d'Orient, Le Basileus, hein, l'empereur, appelle, hein, donc des mercenaires occidentaux, ces fameux mercenaires, qui ne vont pas du tout être des mercenaires, mais des conquérants, hein, et qui vont conquérir la Terre Sainte, hein, je n'y reviens pas, le 15 juillet 1099, c'est la prise de Jérusalem, hein, et avec le premier. Celui qui sera le premier roi de Jérusalem, Godefroy de Bouillon, qui refusera le titre de roi, hein, et se fera nommer avoué du Saint-Sépulcre. Voilà pour la création du royaume de Jérusalem, on l'a vu tout à l'heure, ce royaume qui donc durera à peu près un siècle, hein, jusqu'en 1187. Une seconde croisade pour affermir, pour consolider, hein, ces territoires, qui va donc être comment dire, menée de 1147 à 1149. Et puis, eh bien, après 1187, on va tenter, hein, après la prise, hein, de Jérusalem par Saladin, hein, souvenez-vous, on va tenter de reprendre avec une troisième croisade la Terre Sainte. Ce sera un échec, hein. Celle-ci a lieu de 1189 à 1192. On échoue à reprendre Jérusalem. Alors, dans l'histoire des croisades, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, il n'y a pas que des faits héroïques, hein, loin de là. Et la quatrième croisade, qui elle va durer de 1202 à 1204, eh bien, ne va pas du tout concerner la Terre Sainte. Eh oui. Pas du tout, parce que cette croisade, qui est largement financée par les fameuses républiques italiennes, hein, qui sont, vous le savez, ces villes républiques indépendantes, hein, Florence, Venise, hein, etc. Là, c'est Venise, hein, qui va financer cette quatrième croisade. Et tout simplement, l'idée, bah, c'est pas du tout d'aller en Terre Sainte, mais c'est de prendre tout simplement le contrôle, hein, de l'Empire romain d'Orient, qui à l'époque est en pleine déliquescence, hein, déjà considérablement affaibli, on l'a vu, hein, menacé de partout. Hein, eh bien, les croisés détournent la croisade, et en 1204, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils s'emparent tout simplement de Constantinople. C'est la première prise d'Istanbul, hein, Istanbul, Constantinople, tout ça, vous savez que c'est la concerne de la même ville. Hein. Et cette prise, qui d'ailleurs a été immortalisée par un certain nombre de peintres, hein, du 19e siècle notamment, hein, est évidemment l'occasion d'un pillage épouvantable et surtout la fondation, hein, d'un empire latin. Hein, empire latin qui va durer de 1204, hein, à peu près à la moitié du XIIIe siècle, hein, puisque évidemment les croisés seront finalement à la fin chassés, hein, de cet empire latin. C'est une histoire peu glorieuse, hein, qui est l'histoire de la quatrième croisade, hein, et qui est également retranscrite, hein, par les chroniqueurs de l'époque. Je vous en recommande vraiment la lecture si vous en avez le temps. Et puis, c'est la cinquième croisade, qui va durer de 1217, pardon, à 1221, et qui verra une reprise partielle de Jérusalem en 1219, mais extrêmement partielle, qui ne durera pas. La sixième croisade la suit, de 1228 à 1229, et là, c'est la fondation du deuxième royaume de Jérusalem, qui va durer du 11 février 1229 à 1244, c'est pas très longtemps. C'est la fameuse croisade de l'empereur mythique germanique Frédéric II du Saint-Empire, hein, Saint-Empire romain germanique, qui va s'emparer de Jérusalem, dont la conquête sera contestée d'ailleurs, hein, mais néanmoins c'est lui le seul, hein, qui va arriver à maintenir, hein, ce second royaume jusqu'en 1244. Et puis suivent donc les autres croisades. Hein. Ces autres croisades, bah, c'est la septième, en tout cas référencée comme telle, c'est la fameuse croisade qui va de 1248 à 1254. Il s'agit là, et je le précise, d'une croisade qui nous intéresse parce qu'elle concerne le roi Saint-Louis. Saint-Louis, dont on ne targuera, on n'arrêtera jamais, si je puis dire, l'éloge. Hein, donc, de 1226 à 1270, sont ces dates de règne, Louis IX, hein, on l'appelle Louis IX, qui quand même va mener deux croisades, hein, Saint-Louis. Hein. La première, donc, la septième, de 1248 à 1254, avec une première tentative de désenclaver Jérusalem en passant par l'Égypte, hein, c'est la fameuse bataille de Damiette, l'échec devant Damiette, hein. Puis la huitième qui sera fatale, hein, à Saint-Louis, qui mourra en 1270, qui mourra de la peste, hein, devant Tunis, hein, avec donc cette seconde tentative. Et après, bah, vous l'avez bien compris, c'est terminé, hein. Les dernières présences latines occidentales sont évacuées. Hein, de la Terre Sainte, et on mentionne donc en marge, hein, qui a lieu un peu avant, mais quand même toujours au XIIIe siècle, c'est la fameuse neuvième croisade, ou la croisade dite contre les Albigeois, qui dure de 1208 à 1244, vous le savez, elle se termine en 1244 par la fameuse prise, hein, du Bog, hein, c'est-à-dire de Montségur. Hein, ce bastion, hein, cathare, je ne développe pas puisque nous sommes dans une émission sur les Templiers, j'en avais fait partiellement auparavant sur les cathares. Sachez tout de même que, pour en revenir à nos Templiers et avant d'aborder les mystères pour le dernier quart d'heure qui nous reste, que les cathares, hein, dans ces histoires de croisades contre eux, hein, eh bien, auraient probablement reçu une aide, hein, en fait, des Templiers qui n'auraient pas voulu participer à ce type d'opération. Tout cela reste évidemment à confirmer. Il est un peu difficile de le détailler. Alors maintenant, on en arrive au mystère, hein, les fameux mystères liés aux Templiers. Alors évidemment, en premier lieu, à part les deux lieux dont je vous ai parlé, Gisors, hein, et Chinon, il y a la masse considérable de tout ce que probablement les pauvres chevaliers du Temple arrêtés par Philippe le Bel, soumis à des tortures effroyables, hein, ont avoué tout ce que on voulait leur faire avouer, hein, afin évidemment de se repentir. Hein, vous savez très bien comment ça fonctionnait, hein, dans ce terrible système de l'Inquisition. Hein, c'est que si vous vous repentez, eh bien vous finalement obtiendrez un pardon, vous ne serez pas forcément brûlé. Hein, mais par contre, si vous vous rétractez, là vous serez considéré comme relaps. Et là, par contre, on va vous incinérer, on va vous brûler. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, à Jacques de Molay, hein, qui au début avait fait un plaidoyer coupable, et puis au dernier moment, hein, bah, il a dit, mais non, bien sûr que non, je refuse de cautionner toutes ces horreurs que l'on m'a fait avouer, condamné comme relaps et donc brûlé. Je rappelle que c'est exactement ce qui, 2 siècles plus tard, hein, enfin, un siècle et demi plus tard, hein, au XVe siècle, arrivera à Jeanne d'Arc. Hein, Jeanne d'Arc condamnée comme sorcière, hein, se repentant au départ et puis se rétractant et étant brûlée elle aussi, comme vous le savez, à Rouen, hein, comme relapse. Alors, les Templiers accusés de tout, hein, de mœurs sexuelles dévolues, de dissolues, également de pratiques sataniques, bien sûr, hein, c'est le grand thème de l'époque, d'adorer une idole, une fameuse tête mystérieuse dont on n'a jamais rien retrouvé, enfin qu'on appelle le Baphomet. Googlisez en images le Baphomet, vous verrez toutes les formes diverses en dehors des jeux vidéo qui apparaissent. À propos de jeux vidéo, justement, puisque nous sommes dans la partie mystère, j'en recommande un, hein, qui est Assassin's Creed, la version donc, qui se passe à Paris, hein, qui est sortie il y a 1 an et demi maintenant, et le dernier qui se passe à Londres, qui sont des jeux vidéo magnifiques, hein, je pense qu'un certain nombre d'entre vous doivent les connaître, et qui reproduisent d'une façon remarquable, hein, remarquable, le Paris de la Révolution française, pour le premier, hein, et où bien sûr apparaît en détail, hein, la forteresse du Temple. C'est une occasion rêvée d'aller la visiter puisqu'elle n'existe plus. Et puis Londres, hein, qui se passe au XIXe siècle, et là aussi le quartier que j'ai évoqué, qui lui existe toujours, est très intéressant. Ce sont des jeux magnifiques qui ont fait un travail de documentation tout à fait remarquable pour toutes celles et ceux qui sont passionnés par l'histoire, par revivre l'histoire. Ben, ça en vaut la peine, croyez-moi. Alors, ces deux lieux de mystère que j'ai retenus pour finir sont Gisors et Chinon. Alors, Gisors, c'est tout près de Paris, hein, ça peut être l'objet d'une petite excursion d'une journée, hein, quand on quitte la capitale, hein, en semaine ou un week-end. Et c'est d'abord un vieux château fort, hein, Gisors, du XIe siècle, hein, qui n'a absolument pas du tout été construit par les Templiers. Hein. C'est pas du tout ça, on est dans le Vexin. Hein, et le château remonte au XIe siècle. Hein. Il est construit sur une motte, hein, on le voit, est très impressionnante quand on arrive à Gisors. Hein. Cette motte castrale donc, est édifiée en 1097, hein, donc avant la prise de Jérusalem, par Robert II de Belém, hein, sur ordre du roi d'Angleterre, puisque je vous rappelle qu'à cette époque-là, nous sommes dans une partie contrôlée par le royaume d'Angleterre. Hein. Le Vexin, si vous voulez, est une marche, hein, en quelque sorte, entre le vieux royaume de France médiévale, hein, et les possessions des Anglais, comme vous le savez, qui évidemment vont les céder plus tard. Alors, c'est avant tout d'abord ce château, un bastion anglo-normand, hein, où bien sûr les conflits vont se succéder. Hein. Et puis, bah effectivement, à un moment donné, il va passer sous le contrôle du royaume de France, et en 1160, hein, donc quand même bien plus tard, hein, en 1160, eh bien, c'est là qu'il est confié à la garde des chevaliers du Temple, hein, pas pour très longtemps. Trois chevaliers templiers en 1160 sont chargés de veiller sur la forteresse, hein, Robert de Piron, Tost de Saint-Omer et Richard d'Hastings. Hein, qui sont des maîtres de l'ordre pour les provinces d'Angleterre. Je vous expliquais tout à l'heure que l'Angleterre, le Royaume-Uni, formait une des fameuses provinces. Et voilà donc tout ce que l'on peut en dire. Hein. Il est annexé définitivement ensuite par Philippe Auguste. Hein. Et puis, bon, bah, il va servir de prison, hein, aux Templiers, lui aussi, comme le château de Chinon, de 1310 à 1314, ce qui fait d'ailleurs que peut-être que le plus grand mystère de Gisors, bah, c'est la tour du prisonnier, notamment, où se trouvent des graffitis, hein, laissés par les prisonniers templiers, hein, de l'époque. C'est tout à fait intéressant. Alors, où est la légende? Bah, la légende, le mythe, hein, vient en fait d'un ouvrage écrit dans les années, fin des années 50, début des années 60, par un écrivain spécialiste érudit d'histoire à succès, Gérard de Sède, hein, qui avait recueilli le témoignage, hein, d'un gardien, un vieux gardien du château qui s'appelait Roger Lhomoy. Alors tout ça est raconté merveilleusement, je vous recommande ce livre parce qu'on le trouve assez facilement d'occasion, hein, de Gérard de Sède, Les Templiers sont parmi nous, c'est le début d'une longue série de bouquins, plus ou moins mythiques, hein, évidemment, sur l'histoire des Templiers et les mythes. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? De quoi s'agit-il? Ben, tout simplement, c'est de dire que un certain nombre de Templiers, notamment parmi les plus hauts gradés, avaient eu vent avant la fameuse arrestation du 13 octobre 1307 de l'opération que préparait Philippe le Bel. Et, dit-on, 13 ou 14 chariots auraient quitté donc la forteresse du Temple à Paris dans la nuit du 12, donc enfin, ou la veille ou l'avant-veille, hein, du 12 donc octobre 1307. Ou du 10, ça n'en est pas un jour près, pour évidemment mettre en sécurité le fameux trésor, donc ce fameux trésor des Templiers. Et évidemment, l'idée était de remonter par la Normandie, pour tout simplement, hein, pouvoir ensuite prendre des bateaux, je vous rappelle qu'il y a une puissante flotte, hein, templière, prendre des bateaux et ensuite se rendre dans une région où, bien sûr, il n'y aurait pas de problème, Royaume d'Angleterre, une des fameuses provinces, hein, de l'ordre. Ils n'y sont pas arrivés et ils auraient caché dans une chapelle souterraine mystérieuse située sous la motte du château de Gisors le fameux trésor, ce que le gardien Roger Lhomoy prétend avoir découvert. Il raconte comment il est descendu dans cette chapelle, totalement mystérieuse, et qu'il aurait trouvé les fameux coffres, etc., etc. Voilà la légende. Le problème, c'est que, effectivement, après, avec beaucoup de bouquins où il écrit là-dessus, on n'a jamais rien retrouvé. On a fouillé de partout cette motte. Il y a même des fouilles qui ont été menées après 1958, du temps du général de Gaulle, par le ministre de la Culture de l'époque, vous savez, qui c'était évidemment André Malraux, des fouilles faites par l'armée. On a toujours dit qu'il n'y avait rien. Néanmoins, vous savez, plus on gratte les mystères, et plus parfois ça devient encore plus mystérieux. Donc voilà pour Gisors, je vous invite à vous rendre dans ce lieu, qui est une ville d'ailleurs fortifiée, très intéressante. L'aspect peut-être le plus intéressant concerne quand même peut-être ses graffitis, et ses petits bas-reliefs, très étranges d'ailleurs, tracés par les prisonniers. Et le deuxième, c'est celui. Alors, je me suis rendu à Gisors. J'ai fait, il y a, c'était en 2011, et j'ai fait plein de photos. J'aimerais bien y retourner, d'ailleurs. Si j'en ai l'occasion, je le ferai. Le deuxième de ces mystères, là, je suis allé deux fois et encore récemment, c'est celui du château de Chinon. Enfin, Chinon, on est dans les Pays de Loire, un château qui a été construit à partir du Xe siècle. Et c'est la fameuse tour du Coudray. Alors, c'est une des tours de ce château médiéval. Bon, vous savez que le château de Chinon est plus connu pour l'épopée de Jeanne d'Arc, parce que c'est là que Jeanne d'Arc, vous savez, a reconnu le roi, qui se cachait, etc., etc., parmi ses courtisans. Bon, je n'y reviens pas. On a déjà fait des émissions sur Jeanne d'Arc. C'est surtout ça la célébrité de Chinon. Bon, en parlant également d'excellents vins que l'on boit dans la région. Mais il y a aussi cette prison, c'est la dernière prison de Jacques de Molay, tout simplement le dernier grand maître, en tout cas officiellement, de l'ordre, Jacques de Molay, qui donc est, avec d'autres templiers, détenu dans le château de Chinon. Alors là, il y a une prison extrêmement profonde, et il faut descendre très très bas, au fond de cette tour du Coudray, qui est une sorte de donjon pratiquement sans fin, pour là aussi découvrir de superbes graffitis, qui ont été tracés là par les Templiers. On s'interroge encore, on travaille encore beaucoup sur leur signification. Est-ce un langage codé? Est-ce la transmission de quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? Est-ce un patrimoine culturel oublié? Je pense notamment aux travaux de Serge Ramon, que je cite ici, publié dans la Revue archéologique de l'Oise en 1981. Tout cela, bon, il y a sur tout ce que j'ai évoqué ce soir des pages Wikipédia qui sont vraiment très bien faites. Et je vous en recommande la visite en plus des trois suggestions de bouquins que j'ai mises ce soir sur Facebook. Alors la postérité de l'ordre. La postérité de l'ordre. Alors, qu'est-ce que l'on peut en dire? Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'à travers l'histoire, à travers l'histoire, il va y avoir plusieurs tentatives de restauration de l'ordre. Une, évidemment, sera assez emblématique sous le Premier Empire, avec un grand maître, Palapra, qui va se trouver une généalogie de grands maîtres en continu, qui se serait caché après, évidemment, l'exécution de Jacques de Molay, donc après 1314, et qui, jusque donc le début du XIXe siècle, se serait succédé. Bon. Pourquoi pas? Bon. Ensuite, on a tous les mouvements ésotériques, para-ésotériques du XXe siècle, encore aujourd'hui, qui s'en réclament. Il faut savoir que quand l'ordre est dissous, l'ordre des Templiers, eh bien, c'est l'ordre des Hospitaliers, autrement dire, l'ordre de Malte qui va prendre la suite. Donc il y a une perpétuation aussi à ce niveau-là. Je pense à une autre île, l'île de Malte, hein, où se trouve encore aujourd'hui, dans cette île de Malte, tout simplement le quartier général de l'ordre de Malte, hein, bien sûr. Donc ça, c'est assez intéressant de le mentionner aussi. Hein. Également, bon, on a l'histoire, et je l'évoque dans les dernières minutes, mais la fameuse histoire, légende, ou histoire véritable, je ne sais pas, du prieuré de Sion. Hein. Prieuré de Sion qui serait né d'une scission, vous le savez, au sein de l'ordre des Templiers. Cette scission aurait eu lieu comme par hasard à Gisors, où aurait été scié de manière symbolique un Ormetto. Hein. Il y a une rue de l'Ormetto, pour votre info quand même. À Gisors, c'est assez intéressant de le savoir. Hein. Pourquoi y a-t-il une rue de l'Ormetto? Je l'ignore. En tout cas, un petit orme donc aurait été scié et comme symbole de cette scission. Le prieuré de Sion, c'est toute l'histoire, évidemment, vous le savez, de Rennes-le-Château, de Plantard et de tous ces bouquins ensuite écrits aussi par Gérard de Sède. Je n'y reviens pas, cela pourrait faire l'objet d'une émission que nous avons d'ailleurs avec Cédric en projet, comme vous le savez. Et puis, pour finir, puisque je suis déjà à un peu plus de 58 minutes. Je voudrais conclure par la devise de l'ordre des Templiers, bien sûr, hein, qu'on n'a pas évoquée, qui elle est quand même bien véritable. Hein. La voici en latin: Non nobis domine, non nobis sed nomini, tuo da gloriam. Et on peut la traduire de cette manière: Non pour nous, Seigneur, non pour nous, mais pour la gloire de ton nom. Ouais. Je trouve que c'est une magnifique citation qui évoque, au-delà des Templiers, hein, tout simplement même la notion même de la chevalerie. Et cette notion de la chevalerie, c'est la probité. Et qu'est-ce que c'est que le preux? Le preux et la probité, qui sont des valeurs de la chevalerie, qui sont des valeurs bénéfiques, qui n'ont rien à voir avec des récupérations politiques souvent extrémistes, malheureusement. Cette probité, eh bien, c'est tout simplement d'être au service, hein, au service de l'autre, notamment, hein, en ne demandant jamais rien en échange, hein, des services que l'on a rendus, parce que tout simplement le fait de servir son prochain, hein, qui à mon avis est au cœur même du concept même du chevalier, hein, eh bien, cette idée-là est sans doute la valeur cardinale, hein, de la chevalerie. Et je crois qu'on peut dire, puisqu'on va conclure maintenant, puisque nous sommes à un peu plus d'une heure, je crois qu'on peut dire que l'ordre du Temple, même si, hélas, il a fini de cette triste manière que l'on a vue, a grandement et probablement eu son utilité en étant une belle illustration, puisqu'il y a bien sûr d'autres ordres, hein, teutoniques, etc., on n'y revient pas, en étant une belle illustration de ces valeurs du Moyen Âge, ces valeurs médiévales liées aux Templiers. Je vous remercie pour votre écoute, et nous nous retrouverons, eh bien, le dernier jeudi du mois d'octobre pour évoquer une émission dont je vous réserve encore la surprise, car elle est encore en cours de création. Merci, bonsoir, et à une prochaine fois.